Dieu notre Père, te disons merci pour ce bon moment que tu nous donnes encore une fois de t'écouter. Parle à tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 11e. Actes des Apôtres, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 11e. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?»« Voici ceux qui appellent ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur de nous avoir encore une fois donné cette opportunité d'arriver auprès de sa face en ces jours. Et comme nous sommes en train de parler de la communion fraternelle, ce dimanche, nous voulons parler des obstacles à la communion fraternelle dans l'Église. Dimanche passé, nous avons suivi ici la prédication qui nous appelait à vivre la patience et la persévérance dans la communion fraternelle. Dire que dans la communion fraternelle, nous devons vivre la patience et la persévérance, cela signifie que dans notre marche d'ensemble, nous rencontrons toujours des obstacles, nous rencontrons toujours des embûches qui peuvent nous décourager ou qui peuvent empiéter notre marche d'ensemble entre nous et même avec le Seigneur. Cela signifie que lorsque nous sommes dans la marche avec le Seigneur, nous devons savoir que notre communion, la communion fraternelle et sororale que nous avons, est toujours malmenée et menacée par de nombreux obstacles. Et ces obstacles-là, même s'ils ne manqueront jamais, mais ces obstacles méritent toujours d'être résolus pour la bonne marche de l'Église. Alors, les obstacles à la communion fraternelle dans l'Église peuvent venir de toi-même comme chrétien ou fidèle en Christ. Ces obstacles peuvent venir des autres chrétiens avec qui vous communiez le Seigneur, et ces obstacles peuvent venir du milieu ambiant dans lequel vous vivez. Ces obstacles peuvent venir de votre profession. Ces obstacles peuvent venir de différentes relations dans la vie et dans notre ministère que nous exerçons à l'Église. Alors, au cours de notre méditation de ce jour, nous allons parler de ces obstacles mais aussi nous allons proposer certaines solutions. Mais retenez que la prédication de ce jour, c'est vraiment un défi que je vais lancer à chacun de nous. Et c'est à chacun de nous de voir comment il va mettre en pratique la parole de Dieu pour que la communion fraternelle, ou alors pour qu'il ne soit pas l'obstacle à la communion fraternelle. Le texte que nous venons de lire en Actes des Apôtres, le chapitre 5, du premier verset jusqu'au 11e, ce texte-là nous est familier depuis l'école de dimanche. Nous le lisons souvent lorsque on veut faire peur aux gens parce qu'ils n'ont pas voulu être fidèles à leur engagement. Mais c'est un texte qui nous parle d'un incident. L'incident qui avait frappé la première communauté chrétienne et même tous ceux qui n'étaient pas membres de la communauté chrétienne avaient appris cela et c'était un scandale. Et qu'est-ce qui s'était passé? Comme nous le connaissons, Ananias comme chrétien, parmi tant d'autres, il avait vendu son champ. C'était son champ, ce n'était pas les champs de l'église. Ce n'était pas les champs de la communauté, c'était son champ. Et il l'a vendu avec le consentement de sa bien-aimée, sa femme. Et ils ont amené une partie à l'église. Ils ont amené une partie de l'argent de la vente. Et tous d'un commun accord. Le problème de ce couple, c'est qu'ils ont déclaré devant Pierre que cet argent représente la totalité de la somme de la vente du champ. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché de ce couple n'était pas de vendre son champ parce que c'était son champ. Le péché n'était même pas de retenir une partie parce que c'était la somme qui revenait à eux seuls. Mais leur péché, ils ont amené une partie à l'église et quand on les a demandé est-ce que c'est tout ce que pouvait revenir ces champs, ils ont dit oui, tout. Le problème, c'était maintenant de vouloir chercher à mentir au Saint-Esprit ou tromper Dieu. Dans le cadre de la communion dans cette première communauté, ce récit a été écrit pour deux raisons. La première raison, c'est pour nous dire que le partage des biens dans l'église ou dans la première église, elle était un acte volontaire. Et donc, ces couples-là avaient le droit de posséder de leurs biens. Ils pouvaient même donner librement, selon ce qu'ils ont résolu, sans chercher à mentir, parce que les champs leur appartenaient. Deuxièmement, il n'y avait aucun intérêt à mentir, car Dieu, qui nous donne tout ce que nous avons et à qui nous donnons encore comme offrande, il sait toute la vérité. Il connaît les cœurs de chacun de nous. Ce couple de la première communauté chrétienne avait permis à Satan, qui est menteur par excellence et par sa nature, Satan a pris place. Satan a pris la place du Saint-Esprit dans les cœurs d'Ananias et dans les cœurs de Saphira, sa femme. Ils ont trahi la communauté. Ils ont trahi cette communion fraternelle qu'ils ont et leur comportement les a conduits à la mort. Ce comportement-là aussi n'a pas été certainement sans effet néfaste dans la communauté. Mais ceux-là qui avaient le vouloir de pouvoir se rejoindre à la première communauté parce qu'ils n'avaient pas encore reçu Christ, quand ils ont appris ce comportement-là, je crois, ils ne sont plus revenus à la première communauté chrétienne. Et même cet acte-là, la communion qui existait entre Saphira, le couple, et Pierre, doit avoir été aussi un problème. Parce que lorsque Pierre est en train de s'adresser à ce couple, le monsieur meurt, sa femme meurt. Il ne faut pas croire que Pierre aussi, là où il était, il était stable. Il doit avoir eu des problèmes de communion fraternelle. Et tout le monde qui a attendu ce problème-là doit avoir eu la chair de poule parce que on ne pouvait plus. En fait, si je pouvais décider d'aller dans cette communauté, un tel incident, non, moi-même, je peux quand même dire, en tout cas, je rebrousse chemin. Parce que si j'y vais, si tel est le cas dans cette communauté, en tout cas, ça ne vaut pas la peine d'y aller. C'est un comportement qui a été un obstacle à la communion fraternelle. Alors, ce texte que nous venons de lire, à partir de lui, nous allons trouver beaucoup d'autres obstacles que nous voyons même dans l'Église. Ce sont des obstacles qui nous amènent à ne pas consolider, notre communion fraternelle. Le premier obstacle, c'est ce que je viens de dire, il y a la trahison. La trahison, c'est lorsque nous nous comportons différemment de notre compromis. Nous nous sommes compromis, voici ce que nous allons faire, mais nous nous comportons différemment. Le deuxième obstacle, c'est lorsque, quand nous sommes ensemble dans l'Église, mais nous nous rendons coupables envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, Paul dit aux Corinthiens que avant de prendre le pain et le vin, que chacun s'éprouve soi-même. Parce que les gens avec qui vous vivez, ils vous connaissent. Et ils voient lorsque vous vous levez et vous allez communier ici. Et à partir de ce qu'ils connaissent de vous, vous devenez un obstacle à la communion fraternelle. Troisième obstacle, manque de plénitude du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et la première conséquence, c'était que, après s'être remplis du Saint-Esprit, ils ont partagé la parole ensemble dans ce même esprit. Chose étonnante aujourd'hui, c'est que nous sommes en mesure de nous asseoir ensemble. Nous sommes en mesure de communier comme nous venons de le faire. Nous sommes en mesure même de prier et d'écouter la parole de Dieu comme nous sommes en train de l'écouter maintenant. Mais il est possible qu'à la fin de ce culte, nous ne saluions même pas ceux avec qui nous étions assis. Parce qu'il y a un problème entre nous. Nous avons communié les choses ici pour la gloire de Dieu, mais nous ne sommes pas en mesure de nous parler. C'est un problème de la plénitude du Saint-Esprit et c'est un grand obstacle dans la communion fraternelle. 4. Chercher à se faire valoir en public. Quand nous sommes des chrétiens, le Seigneur nous donne des ministères et il nous donne des dons. Il est possible que tu puisses être parmi nous, mais tu veux que tout le monde puisse voir que c'est toi qui as fait ceci ou qui as fait cela. C'est un obstacle à la communion fraternelle. Deuxième obstacle, c'est éprouver de la honte pour sa propre église, mais aussi prôner la séparation comme volonté de Dieu. Il est possible que tu es venu à l'église, mais tu ne trouves pas ce que tu as voulu trouver à l'église, et cela te donne toi-même un comportement de dire, en tout cas, ces gens-là, ils ne m'aiment pas, et voilà la raison pour laquelle je ne dois pas communier avec eux. Et comme la Bible dit, les gens qui ne vous aiment pas, ils ne sont pas de vôtres, c'est que c'est la volonté de Dieu que je puisse aller ailleurs. C'est un obstacle à la communion fraternelle. Sixième obstacle, le sacerdotalisme. Le sacerdotalisme, il y a le mot sacerdos, de sacer qui veut dire sacré. Le sacerdotalisme, c'est une pratique qui enseigne au sacerdoce des rapports spéciaux avec Dieu. En fait, lorsque nous sommes à l'église, il y a des gens qui sont du sacerdoce. Si nous pouvons prendre l'exemple de ce que nous sommes aujourd'hui, le sacerdoce, nous pouvons dire, ce sont les pasteurs. Ceux-là qui ont été ordonnés pour l'œuvre spéciale de Dieu. Alors, comme ils sont au sacerdoce, il est possible que les gens, que ces gens du sacerdoce se dirigent, puissent, au lieu de voir Dieu qui est au-delà, qui a mis ces gens du sacerdoce devant eux, alors ils voient maintenant le pasteur et ne voient pas Dieu qui a placé le sacerdoce là-bas. Et si le pasteur aussi, ou le prêtre constate que le regard est déjà sur lui, cela peut lui amener aussi de l'orgueil et cela lui amène un comportement qui va encore une fois nuire à la communauté. Ça va amener l'arrogance et vous allez directement le voir dans la façon de quelqu'un de parler. Et alors, nous oublions que lorsque Christ est mort sur la croix, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, membres du sacerdoce, parmi lesquels maintenant le Seigneur choisit et dit, toi tu vas diriger les autres. Mais nous sommes tous membres du sacerdoce. Alors si nous mettons beaucoup plus d'accent sur le sacerdotalisme, ça peut encore une fois nuire à la communion fraternelle. Septième obstacle, c'est l'incapacité à servir dans la vision du groupe ou dans la collaboration avec d'autres. Nous devons considérer notre travail comme une petite contribution qui dépend des contributions de nombreux membres de l'Église. Si tu crois que c'est ta contribution qui va faire ceci ou cela, alors ça va devenir un grand obstacle à la communion fraternelle dans l'Église. L'Église étant un corps, on ne peut pas prétendre faire avancer l'Église seule. Que ce soit le pasteur, il ne peut jamais prétendre faire avancer l'Église seule. Si Dieu t'a placé ici, si Dieu a placé l'autre là, c'est pour que tu puisses utiliser les dons qu'il t'a donnés pour l'édification de tous. Et pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Huitième obstacle, parler mal les uns des autres. Parler mal les uns des autres. Qui parmi nous ici peut nous dire que depuis qu'il a été chrétien, n'a jamais parlé derrière le dos de l'autre? Qui n'a jamais parlé de l'autre là où il n'est pas? Mais souvent, nous le faisons. Et nous devons savoir que ça, c'est un péché, un grand obstacle pour la communion fraternelle. Cela nous amène à être hypocrites dans notre vie. En fait, si quelqu'un vient vous dire de quelqu'un d'autre, avant qu'il ne continue, il faut lui poser la question. Ce que tu veux me dire là, est-ce que tu es prêt à le dire même à la présence de la personne dont tu me parles? Et si la personne n'est pas prête à le dire, il faut le décourager, lui dire, tu es déjà dans une mauvaise voie. Et donc, lorsque nous parlons mal les uns des autres, c'est un obstacle. Et vous devez savoir qu'il n'y a que celui qui est mort qui n'entendra jamais ce que vous aviez dit. Parce que, comme vous venez de le dire ici, même après 10 ans, ça peut arriver à celui dont vous avez parlé. Et la communion fraternelle est déjà en danger là-bas. Autre obstacle, dans notre vie chrétienne, nous ne poursuivons plus les biens les uns des autres. Et Thessaloniciens 5, 15 dit, « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. » Nous devons, comme chrétiens, communiants dans l'Église, nous devons poursuivre le bien les uns envers les autres. Il y a quelqu'un qui avait dit ceci, « Rendre le bien pour le bien, c'est humain. » Rendre le mal pour le mal, c'est bestial. Rendre le mal pour le bien, c'est diabolique. Rendre le bien pour le mal, ça c'est divin. Je répète, rendre le bien pour le bien, ça c'est humain. Nous les hommes, nous pouvons savoir faire le bien parce qu'on nous a fait aussi du bien. Rendre le mal pour le mal, cet auteur-là avait dit, ça c'est bestial. Quelqu'un te fait le mal, toi aussi tu veux lui répliquer par le mal. Il a dit que ça c'est bête. Mal pour le bien. On t'a fait le bien, mais toi tu répliques avec le mal. Il a dit, ça c'est vraiment diabolique. Il a dit aussi, rendre le bien pour le mal. On t'a fait le mal, mais toi tu répliques avec le bien. Il dit, ça, c'est divin. Si nous sommes des chrétiens, parce que nous nous appelons des enfants de Dieu, nous devons être comme Dieu. Donc, notre comportement doit être un comportement divin. Savoir rendre le bien au mal. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est ça, ce que l'Écriture nous dit. Et notre obstacle n'est pas prier les uns pour les autres. Lorsque nous ne prions pas les uns pour les autres, souvent c'est aussi un obstacle. Jacques 5, 16 dit confessez les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions, souvent nous manifestons l'égocentrisme. Souvent nous prions pour nous. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, tu me vois. Combien de fois nous prions pour les autres? Seigneur, mon ami là a besoin de ceci. Mon ennemi là a besoin de ceci. Combien de fois nous le faisons? Nous devons prier la bénédiction pour ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous maltraitent. Dans Exode 20, il est écrit qu'il n'y ait point sur terre d'homme juste qui pêche jamais. S'il n'y a point de juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, qu'en est-il maintenant des injustes avec qui nous vivons chaque jour? Et ces injustes-là, ne croyez pas qu'ils sont seulement à l'extérieur, ils sont aussi à l'église, là où nous sommes chaque jour. Et donc, il est toujours nécessaire de toujours prier pour un frère, même s'il devient même lui-même l'obstacle à votre communion. Le manque de ne plus s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres, c'est aussi un obstacle à la communion fraternelle. En Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces obstacles sont toujours dans notre vie de chaque jour, jusqu'à ce que nous mourions, appelés à vivre avec, les confronter, mais toujours les surmonter. Toujours les surmonter. Alors, tout ce que je viens de dire là, parce que je viens de parler des 11 obstacles à la communion, nous pouvons les abréger en une seule phrase. Les obstacles à la communion fraternelle proviennent d'une relation déficiente ou inexistante avec Dieu. Une relation déficiente. Une relation, tu es avec Dieu, mais ta relation, elle n'est pas vraiment tout droite. Ou peut-être même cette relation n'existe pas, mais tu es dans l'église. Tu es pasteur à l'église, tu es ancien de l'église, tu es diacre, tu es ceci. Alors tu vas devenir l'obstacle à la communion fraternelle. Le Seigneur nous aide à affronter ça et que la communion soit toujours visible, vivable et viable dans notre vie de chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.